Trisac. L'original. Radio. Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Coupable, votre honneur, coupable, coupable en masse. Vendredi 14 janvier 2022, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Bientôt, ça va prendre un passeport vaccinal pour écouter l'émission. Vous allez voir ça. On n'est pas une grande surface, là, mais quelque part, au cours des prochaines semaines, là, ça va prendre un passeport vaccinal pour écouter Cube Radio et toutes les radios. Bon, à midi et quart, on aura Nancy Delagrave de COVID Stop qui va revenir à l'émission pour parce qu'on lance une pétition. L'ouverture des écoles lundi prochain, ça crée des inquiétudes. On va lui demander lesquelles et pourquoi. Ça, c'est à midi et quart. Aussi, à 11h15, on aura Sophie Charest qui est conceptrice et chef recherchiste de L'Escroc. C'est un documentaire. Et ça raconte l'histoire de Vincent Lacroix et l'affaire Norbourg. J'ai vu les deux premiers épisodes. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est bien fait et c'est bien intéressant. On va lui parler à Sophie Charest tantôt à 11h15 aussi. Au curé de la rue, Claude Paradis sera avec nous. Mais tout d'abord, faut revenir là-dessus parce que vraiment, il y a de plus en plus de gens qui s'inquiètent de la situation. On sait que Québec va ajouter un cinquième niveau de réduction des opérations. La capacité des lits dégagés au palier 4 est déjà dépassée. Et ça crée des inquiétudes en partie chez les gens qui souffrent d'un cancer ou qui ont eu un diagnostic de cancer. Alors avec nous, on a le président de l'Association des médecins hématologues et des oncologues du Québec, Dr. Martin Champagne. Dr. Champagne, bonjour.
Bonjour, M. Dutrisac.
Là, on voit, il y a eu des données en février 2021. On disait, il y a un an, on disait que en raison de la pandémie, des patients présentant des symptômes de cancer, vous m'expliquerez c'est quoi des symptômes de cancer, hésitaient à consulter un médecin de crainte d'être exposé à la COVID-19. Est-ce qu'on en voit les conséquences aujourd'hui?
Ben, en fait, il y a beaucoup de patients qui ont eu des retards donc dans leur diagnostic. Les symptômes de cancer, un cancer peut être occulte, c'est-à-dire que c'est une découverte par hasard. C'est pour ça qu'il existe des tests de dépistage comme la mammographie, comme la recherche de sang dans les selles, par exemple, donc qui peuvent être faits pour dépister un cancer avant qu'il se manifeste. Puis il y a des gens qui auront des symptômes. Ça peut être un saignement anormal, une perte de poids inexpliquée, une température inexpliquée, en fait des douleurs ou des malaises. Qu'on n'a pas de raison d'avoir. Alors, souvent, la plupart des patients auront des symptômes. Quand on diagnostique un cancer, les gens auront noté quelque chose, une bosse inhabituelle. Alors, les gens avaient des difficultés d'accès au système de santé à voir leur patient, à voir leur médecin. Quand les médecins les voyaient, il y avait une restriction quant à l'accessibilité pour avoir des tests d'imagerie. Donc, les biopsies prenaient du temps avant de pouvoir être établies. Donc, tout ça a effectivement entraîné des délais de cancer. On estime qu'un certain nombre de gens, donc, quand on comparait les données historiques par rapport à la période de 2021, donc, on voyait qu'il y avait eu un sous diagnostic du nombre de cancers au Québec. Il y en avait moins que ce qu'on attendait de voir. Est-ce que présentement, il y a beaucoup de patients qui ont été récupérés? On pense que ce sont souvent des patients avec des maladies plus avancées que s'ils avaient été diagnostiqués précocement. Mm-hmm. Mais malheureusement, au Québec, on n'a pas de registre, on n'a pas de répertoire donc du cancer. Donc, on est incapable, on est la seule province au Canada dont c'est la situation, on est incapable de comparer de façon précise les stades de maladie. Donc, le stade, c'est de l'avancement de la maladie par rapport aux données historique.
C'est malheureux. Docteur Champagne, je vous écoute, là, puis je me souviens d'une entrevue il y a peut-être une dizaine d'années. Je me souviens plus avec qui, mais qui m'avait dit le pire endroit pour avoir un diagnostic de cancer au Canada, c'est au Québec, à cause justement qu'il n'y a pas de répertoire, puis il n'y a pas le suivi qu'on a ailleurs.
Bon, je mettrai ça en perspective. Je pense pas qu'on soit à la pire place. Je pense que les soins de santé sont très bons quand vous êtes diagnostiqué. La seule chose, c'est que c'est un outil, un répertoire, ce qu'on appelle le registre des tumeurs. C'est un outil important si vous voulez savoir donc quelles sont les mesures préventives que vous voulez mettre de l'avant, quelles sont les populations à cibler, l'impact des thérapies donc sur les budgets des hôpitaux. Vous avez besoin de ce genre d'outil-là.
Et pourquoi alors, on n'en a pas de ce registre?
C'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Il y a eu des tentatives, mais c'est toujours inopérant. Alors, il faudrait demander au ministère là, quelles sont les raisons qui expliquent ce retard-là.
À quel point, Dr Champagne, vous êtes inquiet de la situation? Je veux pas qu'on fasse de l'alarmisme puis qu'on crie au loup, là, mais on va constater dans les mois, dans les années à venir, qu'il y a des gens atteints du cancer qui vont mourir parce qu'ils n'ont pas eu quoi? Le diagnostic à temps, les soins, les traitements à temps?
Mais là, on frappe un mur. Là, on est en train de frapper un mur. Il manque de personnel, les lits d'hôpitaux sont occupés par une bonne proportion de gens qui sont en récupération, qui ont besoin de réadaptation après une infection de COVID, puis qu'on peut pas retourner dans leur milieu de vie. Alors, présentement, l'engorgement, c'est ça. Donc, ce que ça fait, c'est que ça limite dans les faits, notre capacité d'opérer un patient, par exemple, puis de l'hospitaliser pendant quelques jours, le temps qu'il récupère de sa chirurgie. Alors, présentement, dans le passé, on pouvait faire avec, comme on dit. Donc, on pouvait prioriser des patients. Il y a des cancers qui sont plus urgents que d'autres, là, du point de vue des interventions à faire. Alors, on était en mesure de contourner certaines difficultés d'accessibilité. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'on est en train de nous dire, on va fermer les hôpitaux. Il y a eu des cas qui ont été rapportés. C'est pas d'être alarmiste, mais il faut vraiment réaliser la situation. C'est que présentement, dans un proche avenir, si on n'arrive pas à avoir plus de personnel, si on n'arrive pas à désengorger les hôpitaux, on aura des choix à faire comme société. On fait le choix de dire, ben là, on hospitalise les patients de COVID, mais ça va se faire au détriment de patients qui ont besoin de chirurgie ou de traitement pour leur cancer ou de patients qui ont un infarctus. On a déjà fait le choix dans les derniers mois, difficile, de sacrifier la qualité de vie d'un grand nombre de nos concitoyens en reportant des chirurgies de genoux, en reportant des chirurgies de hanches, de cataractes. Donc ça, ce n'était pas des choses qui mettent la vie en danger. C'est un choix difficile, déchirant, mais c'est un choix qui a été faite dans les circonstances pour prioriser les patients pour lesquels il y avait une question de vie ou de mort.
Ouais.
Là, présentement, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a atteint cette capacité maximale-là. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand le feu est pris dans la demeure? Ben, il faut prendre des décisions. La décision, c'est de rapatrier des gens qui sont en quarantaine ou qui sont infectés par la COVID, mais qui peuvent donner des soins de santé en assumant un certain risque, d'une part. Puis d'autre part, ben, il faut mettre les gens qui ont plus besoin de soins hospitaliers, mais qui logent encore à l'hôpital, dans d'autres milieux, en attendant qu'ils puissent retourner dans leur milieu.
Il y a une couple de questions, là, Dr Champagne. Là. D'abord, les chiffres, dites-moi comment il faut les décoder. Quand on lit qu'il y a 3845 Québécois qui attendent une opération pour un cancer, ça, là, derrière ce chiffre-là, d'abord, est-ce qu'il est précis? Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y en a qui ont... ça, c'est les Québécois qui attendent une opération. Il y a les diagnostics, il y a les traitements. Comment il faut décoder ce chiffre-là?
Ben en fait, c'est la pointe du iceberg. Ça, c'est le bout qu'on voit. Le bout qu'on ne voit pas, c'est tous les patients qui sont en attente, donc en amont d'avoir un diagnostic. Si, par exemple, vous avez pas rejoint votre médecin de famille, vous n'avez pas pu avoir un test de dépistage de sang dans vos selles pour dépister le cancer du côlon, ben peut-être que vous avez du sang puis vous avez besoin d'une coloscopie. On sait que le nombre de coloscopies a augmenté de façon importante. On a augmenté de 50 000 le nombre de Québécois en attente de coloscopie. Puis malgré les efforts de rattrapage dans les derniers mois, on n'est pas parvenu à revenir à une liste dite normale de patients en attente. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des patients qui ont possiblement une tumeur, qui peut être précancéreuse ou cancéreuse à un stade précoce, chez qui on nommait le diagnostic. Alors, ces patients-là, ils n'apparaissent pas dans une liste d'attente de chirurgie. Ils sont dans une liste d'attente X, mais on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de patients comme ça. Si vous avez eu on a trouvé une tache sur votre poumon au rayon X, on vous a demandé un scan, mais que la capacité d'avoir des scans est réduite parce que il y a trop de patients malades, puis quand il y a des patients qui ont la COVID, ça retarde tout le processus, donc à l'hôpital, ben peut-être que vous avez un cancer qui commence, mais vous n'apparaissez sur aucune liste parce que vous êtes dans l'attente des imageries qui okay. vont compléter le bilan.
Mais alors, êtes-vous capable d'extrapoler sur le 3845 Québécois qui attendent une opération? Est-ce que ça veut dire qu'il y a 15 000 Québécois ou 20 000? Est-ce qu'on a une idée là, du nombre de Québécois qui sont touchés par le cancer et qui n'ont pas les soins appropriés?
Non, mais il y a un an, le ministère avait produit des chiffres sur le nombre de coloscopies et il y avait plusieurs centaines de Québécois qui auraient été porteurs d'un cancer du côlon non diagnostiqué selon les estimés que le ministère avait fournis à ce moment-là. Alors, on peut croire que c'est le cas dans plusieurs choses. Puis l'expérience sur le terrain, encore une fois, on n'a pas de registre pour comparer, mais ce qu'on voit, c'est des gens qui se présentent avec des cancers qui nous apparaissent, à nous, les oncologues, à des stades plus avancés de maladie que ce qu'on voit d'habitude. Donc, c'est l'expérience terrain.
OK. Devant l'urgence de la situation, là, parce que là, Dr Champagne, là, je vous entends, là, puis je pense que vous restez dans les normes là, de ce qui est vrai puis de ce qui est réaliste là, comme situation. Êtes-vous d'accord avec les mesures coercitives envers les non-vaccinés? Est-ce qu'on devrait en faire plus? Parce qu'à un moment donné, faut arrêter de tolérer cette situation-là.
Mais je pense qu'il faut que tout le monde, on demeure prudent. La COVID, présentement, l'épidémie, elle est très contagieuse. Puis ce qu'on voit, c'est que l'Omicron, qui est la très grande majorité, pour ne pas dire la totalité des cas que l'on voit au Québec, est certainement mieux, j'allais dire, toléré. Une maladie plus bénigne chez les gens qui sont vaccinés. La majorité des gens qui sont en soins intensifs sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. Et ce que mes collègues en disent, donc ils font des soins intensifs, tout ça, la récupération, elle est beaucoup plus rapide chez les patients qui ont été vaccinés que chez les non-vaccinés. Alors, il faut encourager les gens à être vaccinés.
Là, on les a encouragés. On leur a offert des massages de pieds, puis des billets de l'auto, puis une soirée au resto, puis au théâtre. Sacrément, je sais plus ce qu'on peut faire pour les convaincre, là, mais quand on voit que ça a une incidence sur les concitoyens qui sont souffrants et qui peuvent mettre leur vie en danger, il me semble que là, faut prendre la situation bien plus au sérieux.
Oui, mais vous avez raison de dire que présentement, en choisissant de traiter les gens qui ont des infections à la COVID, on choisit comme société de ne pas traiter ou de sous-traiter des gens qui ont des cancers, qui ont besoin de chirurgie de la hanche, qui ont d'autres besoins médicaux. Donc, c'est un choix de société qui s'est effectué depuis un an et demi, deux ans. Est-ce qu'on a été patient? Assurément, vous le mentionnez. Moi, je vous dirais que du point de vue médical, il n'existe que de très, très rares contre-indications au vaccin. Moi, mon point de vue médical, c'est que tout le monde devrait être vacciné. Alors là, après ça, il y a des choix politiques à assurer, puis ça, c'est pas mon domaine.
OK. Docteur Champagne, ce qu'on entend aussi, là, c'est que là, on dit que les non-vaccinés, puis je vous donne une portion de ce que j'entends, on met tout sur leur dos, mais que en bout de ligne, le système de santé au Québec n'a jamais été capable de prendre en charge tous les malades, les gens qui souffrent de cancer, puis que là, ben c'est un révélateur, mais c'est pas une surprise.
Ben en fait, quand le système de santé est capable de faire avec une variété de types de situations. Tous les jours à l'urgence de l'hôpital, vous allez avoir 5-6 infarctus, 2 traumatismes de la route, des patients qui se présentent en pneumonie. Donc, le système est fait pour prendre en charge une variété de conditions différentes. Quand tout le monde se présente en même temps, puis tout le monde a une condition pulmonaire, tout le monde a besoin d'oxygène, tout le monde a besoin des mêmes soins de santé, évidemment, les restrictions ou la capacité du système, elle est amoindrie à cause de la répétitivité, si le mot existe, là, donc la répétition d'une même pathologie, d'une même présentation. Donc ça, effectivement, effectivement, ça ajoute au fardeau. Mais oui, le système de santé est saturé depuis longtemps et il est sûr, il est certain que le rattrapage, les coûts des médicaments vont nécessiter des investissements majeurs dans les prochaines années. Présentement, quelques hôpitaux modernes qui sont des centres universitaires les a détournés de leur mission de centre tertiaire parce que c'était eux qui étaient les mieux équipés pour faire affaire avec des patients qui ont besoin d'isolement, de respirateurs, etc. Mais là, présentement, on a une variété d'hôpitaux complètement désuets au Québec, donc qui sont inappropriés pour garder des patients qui ont besoin d'être isolés ou d'offrir un environnement sécuritaire. Mmh. On a patché dans les dernières années, donc en mettant des tentes en des bâtiments provisoires, mais il est certain que dans les conclusions qu'il faudra tirer un jour de cette pandémie, qui est là pour probablement rester à des taux variables, c'est il faut investir en santé dans les infrastructures, puis il va falloir investir dans les moyens qu'on requis pour rattraper le retard.
Okay, avant qu'on se quitte, Dr Champagne, est-ce que vous, à l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec, est-ce qu'on vous consulte avant de prendre des décisions?
Ben, en fait, il y a beaucoup de consultations qui ont lieu. Il y a beaucoup de consultations qui ont lieu. Évidemment, les messages se rendent pas toujours avec la même célérité. C'est une grosse machine. Ça prend toujours un certain temps à réagir. Mais oui, il y a des consultations. Puis, il y a une espèce de concertation. Je pense que les gens travaillent tous ensemble. Mais de là à ce que le message se rende rapidement sur le terrain, c'est pas toujours le cas.
Ouais, et j'ai vu qu'il y avait un article là de le cas d'une jeune femme de 30 ans qui souffre d'un cancer. Son opération a été reportée. Ça se passe à Toronto. C'est pas juste au Québec là qu'il y a une incidence sur les cas de cancer.
Non, partout dans le monde, on le voit. Les épidémiologistes anglais ont estimé que les retards diagnostiques pour certains types de cancers augmentaient de beaucoup, donc le risque d'avancement du cancer, puis le risque qui en découle de mortalité. Alors, donc c'est une situation mondiale, ce genre de situation-là.
On va suivre ça. Merci pour cet entretien, Dr Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Merci à vous. Bonne chance.
Bonjour. Merci.